Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Emmanuelle Lambert, autrice, était de passage à Rennes pour une rencontre avec le public autour de son livre en partie autobiographique qui s'appelle « Aucun respect » paru aux éditions Stock l'été dernier. Et à cette occasion, je peux la rencontrer. Voici donc une interview qui va nous plonger dans le milieu de la littérature à Paris au début des années 2000. L'héroïne du roman est amenée à travailler sur l'œuvre d'un grand écrivain, le pape du nouveau roman, Alain Robbe-Grillet. C'est absolument fascinant et nous allons donc suivre le parcours initiatique dans le monde de la littérature de cette jeune héroïne. Interview d'Emmanuelle Lambert. Emmanuelle Lambert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette interview autour de votre livre « Aucun respect » paru aux éditions Stock le 21 août de cette année. Alors, je tiens à vous dire, c'était le jour de mon anniversaire.
Eh bien, bon anniversaire en retard. C'est mon cadeau.
C'est le premier livre que je lis de vous, donc je vous découvre, mais évidemment, j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu que dans votre parcours, vous avez déjà parlé d'autres écrivains et écrivaines. Et là, il est question de parler de Brestois, Alain Robbe-Grillet.
Ouais,
bah oui.
Bah oui,
Robbe-Grillet, bah oui, évidemment, il est breton.
Il y a une grosse part autobiographique de ce roman, qui est un roman, hein, qui n'est pas un livre de souvenirs, parce que je voulais quand même l'élever au-dessus de moi, quoi. Je ne voulais pas raconter ma vie, ça ne m'intéresse pas de raconter ma vie. Mais je suis partie de mon expérience, et c'est une expérience un peu étrange, parce que c'est vrai que mon premier boulot, mon entrée dans la vie professionnelle s'est faite avec ce grand écrivain, dont j'étais chargée de rassembler les archives, je devais concevoir une exposition, enfin je devais faire des tas de choses avec lui et sa femme, et j'étais très jeune et c'était très étrange parce que pour moi c'était l'incarnation en fait de la littérature, c'était quelqu'un que j'avais croisé dans les manuels scolaires sans vraiment le lire, donc il y avait un peu comme si la statue prenait vie, quoi. C'est une expérience très déroutante. Et ça a été ma première exposition. Il se trouve que c'est mon autre métier, qu'aujourd'hui j'écris des livres et je fais des expositions littéraires. La dernière en date, c'était celle consacrée à Jean Giono au Mucem de Marseille en 19. Donc c'est toutes les premières fois qui m'ont faite comme écrivaine et comme femme. Et ça, j'espère en tout cas qu'au-delà de mon cas, ça fait réfléchir aussi à ce que c'est que rencontrer des gens qu'on admire, ce que c'est que se former au contact d'artistes, jusqu'où va la liberté de création, comment est-ce qu'on peut l'expérimenter, et puis comment on apprend aussi en se détachant peut-être de l'admiration qu'on peut avoir sur des figures très impressionnantes.
Ouais. Mais est-ce que votre rencontre personnelle, pour de vrai, était aussi déroutante que celle de l'héroïne de roman ?
Je crois qu'elle l'était encore plus. Forcément, l'héroïne du roman, vous savez, les années ont passé, 25 ans ont passé. Donc, quand je me souviens de ça, j'ai essayé de travailler le sentiment. Hein. Mais je le travaille avec l'âge que j'ai aujourd'hui, avec la maîtrise que j'ai aujourd'hui, et puis surtout avec le fait que le temps a passé, la société a changé, et donc on a des outils de réflexion et des façons de voir les choses qui ont changé. Donc j'étais, je crois, encore plus confuse, oui, c'est-à-dire que j'étais comme on est quand on est jeune et qu'on arrive dans n'importe quel milieu. Il me semble qu'on peut transposer l'expérience de ce livre dans des tas d'autres milieux professionnels où on arrive et il y a quelqu'un qui est une sorte comme ça d'autorité, de gourou, de voilà, et on essaye de trouver sa place. Et quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, bah évidemment, au début, on ne comprend rien. Donc, il faut apprendre les codes, il faut essayer de trouver les bonnes personnes, il faut essayer de savoir jusqu'où on veut aller, ce qui est bon pour soi. Tout ça, c'est tout un travail, en fait, de grandir. Et que ça soit comme artiste, comme écrivain ou comme n'importe quel autre métier, ce travail-là, je crois, il se fait d'abord dans une forme de confusion. Et puis, grâce à l'écriture, on peut remettre en ordre. Voilà.
Il y a eu un moment, notamment celui-là, qui vous pointait dans la littérature, dans lequel
la provocation, la toute-puissance, elle était palpable, elle était convenue. C'est une surpuissance d'ailleurs masculine et qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. En tout cas, pas autant.
Oui, bien sûr, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite lentement, qui s'est faite au fil des années. C'est vrai que si on démêle un peu tout ça, il y avait... Dans ces années-là, je parle des années 90, un rapport, on va dire, à la transgression qui était très fort dans la littérature et qui a d'ailleurs, par le passé, donné de très grands livres. Hein, attention, hein, c'est... Mais donc, il y avait une sorte de culture, comme ça, une sorte de bien-entendu qui était que... il fallait provoquer, il fallait déstabiliser. Et ça, c'est pas forcément des mauvaises choses, mais la vraie question, c'est celle de la limite. C'est celle de la limite, c'est celle du pouvoir au fond. C'est-à-dire à quel moment on est dans une position dans la société qui est tellement forte symboliquement qu'il faut faire attention au pouvoir qu'on a entre les mains. Et c'est une question que je n'ai pas tranchée hein, en réalité. C'est-à-dire le livre aussi, il pose des questions. Hein. J'ai pas toutes les réponses. Il raconte le chemin que fait cette héroïne, justement, qui au début est très admirative, et puis peu à peu, quand même, l'écrivain, le vieil écrivain, commence à avoir des interviews où il est plus caricatural qu'il n'était, et notamment sur les questions de domination sexuelle, toutes ces questions sadiques ou sadiennes, et là, elle est de plus en plus gênée en réalité. Et je voulais pas, moi, avoir l'air de faire la morale 25 ans après. Hein. Je voulais montrer le trouble face au fait que tout ça a beaucoup changé et que c'est fragile aussi, la position d'un écrivain dans le temps. Et puis aussi le trouble face au fait que les femmes, il y a aujourd'hui des choses qui nous paraissent complètement insupportables, alors que quand nous étions jeunes, nous les avions complètement intégrées. C'est pour ça que le livre, en fait, Robe Grillet est une sorte, on va dire, de c'est comme la statue d'un dieu de la littérature autour duquel tout le monde tourne. Au fond, le sujet, c'est pas lui. Le sujet, c'est la manière dont la société s'organisait autour de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de passages dans le livre qui mettent en scène aussi des anonymes, qui mettent en scène les scènes de rue, par exemple, ce que c'était pour une fille de se balader dans la rue, ce que ça voulait dire de rencontrer des garçons, des machins, quelles étaient les attentes sur le corps, le mannequinat. J'ai brassé tout ça, parce que pour moi, tout ça, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que c'est que la norme ? Qu'est-ce que c'est que la norme à un moment donné et comment on arrive à se débrouiller ou pas avec cette question-là de la norme et comment nous, les filles de ma génération, ce qu'on avait vraiment intégré comme la norme aujourd'hui nous paraît complètement dément, quoi.
C'est marrant parce qu'en vous écoutant, évidemment, on va trouver tout ce que vous êtes en train de dire entre les lignes de livre de manière très explicite ou alors beaucoup plus subtile. Pour autant, cette violence, pour certains des critères, comme par exemple être aujourd'hui dans la rue, c'est exacerbé. Non, oui. Vous n'avez pas le sentiment ?
Si, j'ai le sentiment. Alors ça, c'était très intéressant de rencontrer le public, c'est-à-dire notamment les plus jeunes femmes à qui je disais « j'espère que c'est mieux, j'espère que ça a changé ». Elles me disaient « ah, pas du tout ». Alors, j'étais très déçue. Je me disais, il y a encore du boulot. Elles se sont vraiment reconnues dedans. Et il y a quelque chose qui résiste. Il y a quelque chose qui résiste dans la manière dont la société est organisée. Il y a encore beaucoup de travail. Et je pense que le rôle des écrivains, c'est aussi de questionner les représentations. De poser des questions à la société, de dire mais Pourquoi ce serait normal? Qu'est-ce qu'il y a de normal? Et ça, pour ça, le roman est un outil extraordinaire, parce que ces questionnements-là, qui sont des questionnements en fait de raisonnement, enfin de conversation qu'on peut avoir comme ça entre nous, vous les faites exister à travers des personnages. Donc le lecteur se projette en fait sur les personnages. Et là, d'un coup, il traverse la rue avec la jeune femme, quoi. Et ça fait pas la même chose que d'avoir une discussion sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ça pose les choses, et c'est le lecteur ou la lectrice qui lui tire la morale de l'histoire.
Pour revenir un peu sur le couple, parce que l'histoire aussi, elle tourne autour de comment on va découvrir le couple, cette jeune femme, pour des raisons professionnelles et aussi parce qu'elle travaille dans une institution qui accompagne le travail, la mémoire d'Alain Robbe-Grillet. Eh bien, il y a aussi sa femme, Catherine, qui est une personne, vous parlez tout à l'heure de pouvoir, mais c'est une femme de beaucoup de pouvoir. Ça brouille un peu les pistes là-dessus aussi, non?
Oui, ça brouille complètement les pistes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont nés dans les années 20 et 30, et si vous regardez la chose de loin, vous avez le grand écrivain, voilà, très célébré. On a un peu oublié la célébrité de Robbe-Grillet, qui était quelqu'un qui était vraiment traduit dans le monde entier, qui a fait le tour du monde, qui était invité partout, qui était professeur aux États-Unis où il parlait de ses livres. Enfin, c'était quelqu'un vraiment de très très célèbre et de très important dans la théorie littéraire aussi. C'est quelqu'un qui a semé des graines comme ça, vraiment fondamentales pour la modernité littéraire. Donc de loin, on a ce monsieur comme ça, qui est déjà âgé, et puis dans l'ombre, il y a sa femme, qui est une petite dame discrète, et en réalité, c'est non seulement c'est elle qui tient toutes les archives, tout l'emploi du temps, enfin ça c'est assez courant, hein, c'est que c'est elle qui gère la réalité, on va dire, mais il se trouve que c'est une dominatrice sadomasochiste. Alors ça, c'est la grande découverte que fait l'héroïne, et c'était de notoriété publique, hein. On revient sur la question de ce qui était à la mode aussi littérairement dans la question de la transgression. Elle a écrit des livres dessus, enfin, c'était une chose qui était tout à fait connue, c'est pas du tout un secret. Et donc, d'un seul coup, la chose s'inverse. C'est-à-dire que le rapport qu'on pensait, où on pensait qu'il y avait le monsieur important qui dominait, elle le renverse en étant elle-même dans ce truc-là.
Et avec un naturel assez déconcertant d'ailleurs, non?
Ah ben elle l'a toujours. Hein. Catherine, elle a maintenant 94 ans, mais c'est toujours quelqu'un qui est très connu pour ses activités. Oui, elle le fait avec beaucoup de simplicité, elle ne cherche à convertir personne. Enfin, voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement d'explorer ce milieu-là. D'ailleurs, le livre, il y a des lecteurs qui sont un peu frustrés, qui s'attendaient à ce qu'il y ait des scènes de sexe et tout. Il n'y a rien du tout. Ça m'amusait de jouer avec la frustration sur ce truc-là, parce qu'en réalité, c'était juste un élément du paysage. Mais c'était pas le sujet. Moi, j'étais pas là pour ça. Donc, c'était pas. Par contre, c'était un élément intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est dans le livre. C'est-à-dire que vous avez une jeune femme qui travaille avec ces deux personnages très sulfureux, au fond, connus pour être sulfureux. Et puis, tout le monde fait des choses très sérieuses. Voilà, on travaille énormément, énormément. Et puis, tout ce que tout le monde veut savoir, c'est si elle a participé à des soirées. C'est que ce qu'on lui renvoie tout le temps, c'est « et toi, ta sexualité ?» Et donc, c'est un gimmick qui est un peu amusant dans le livre. Moi, je me suis amusée avec ça. C'est-à-dire, les personnages du livre veulent savoir, à la fin le lecteur veut savoir, et puis à la fin il sait rien, parce que en fait c'est pas ça le sujet. Voilà, le sujet ce n'est pas ça, le sujet ce sont les rapports de pouvoir et de domination, et comment les gens bricolent à l'intérieur de ça, comment tout le monde essaye de s'arranger, quelle que soit d'ailleurs sa position sociale, parce qu'il y a tout un tas de personnages secondaires dans le livre qui sont secondaires au sens où c'est pas les personnages qui sont mis en avant, mais peu à peu ils montent dans le livre. Voilà, ils prennent de plus en plus d'importance, parce que c'est tous ces réseaux de solidarité, d'entraide, de voilà comment chacun cherche sa place au fond dans une structure sociale donnée. Donc le livre aussi, moi je me suis beaucoup amusée à le faire comme ça, à montrer qu'il y a beaucoup de vie dans la manière dont on bricole avec tout ça, dont on se contente pas de rester à la place qu'on nous a donnée, mais on essaye de trouver des arrangements.
êtes sur Canal B avec l'écrivaine Emmanuelle Lambert pour la sortie de son livre « Aucun respect » paru aux éditions Stock.
Et d'ailleurs, les personnages, c'est très coloré. Hein. Leur vie, elles sont très diverses. Ils ont une façon d'être et d'échanger entre eux. L'amitié est là et d'une façon vraiment, comment dire, très singulière à chaque fois qu'elle a des interactions avec Laura, avec Joseph, avec le chef aussi. Hein, parce que finalement, le chef, même s'il est plus distant, le chef, c'est celui qui dirige, le fondateur de cette institution d'archives, de mémoire. Et ben, elle tisse quand même des liens très forts avec chacun d'entre eux.
Oui, c'est des liens très forts parce que c'est aussi quand les gens, vous savez, ont à cœur ce qu'ils sont en train de faire, ça crée des choses entre eux. Et là, on est dans un contexte où les choses sont en train d'être construites, les choses sont en train de se faire. C'est comme une boîte qui est montée depuis pas longtemps et puis tout le monde a envie que ça marche. Mmh. Et donc, c'est en plus sur des objets artistiques, c'est peut-être plus fort encore. Mmh. Et donc il y a toute cette circulation-là, moi j'étais heureuse de la montrer parce que je crois vraiment, vous savez quand on a commencé l'interview je vous ai dit moi ça ne m'intéresse pas d'écrire sur moi mais ce n'est pas une coquetterie, c'est-à-dire je crois vraiment qu'on se construit dans l'écho que les autres nous renvoient, c'est à force de se frotter à d'autres gens que peu à peu on arrive à peu près à... Non pas à savoir qui on est, ça je pense que c'est le travail de toute une vie, mais à savoir à peu près où on est déjà. Et pour ça, on a besoin des autres. Et c'est des rapports qui ne sont pas que des rapports d'intérêt ou de hiérarchie. Ou de, non, il y a des tas de choses qui se passent entre les êtres humains, entre les lignes justement, entre les statuts sociaux, entre les fonctions assignées, entre les rôles que la société vous assigne. Les gens bricolent des tas de trucs et à la fin... Je crois qu'au fond, c'est peut-être ça le vrai sujet du livre. C'est-à-dire comment vous êtes dans une société donnée, avec ses cadres, avec ses codes, avec ses figures d'autorité, de pouvoir, de verticalité, de domination, et comment à l'intérieur, vous frayez un chemin. Voilà.
Le livre, il parle très clairement aussi d'apprentissage sur pas mal d'aspects différents. Là, on parle du côté professionnel de cette jeune femme, mais elle est aussi dans un moment, elle vit un moment intense d'un point de vue sentimental. Et ce garçon qui lui suscite tellement de désirs n'est pas non plus quelqu'un d'extrêmement accessible. C'était important pour vous de créer un personnage comme ça avec un garçon aussi... mince alors, quand on lit, on le dit, dommage, elle est peut-être un peu normale, très équilibrée, alors pourquoi pas sa vie sentimentale finalement?
Mais parce que je crois qu'on met du temps à savoir ce qui est bon pour soi, et j'ai le sentiment que justement la vingtaine, quand on est en train de grandir et d'accéder à ce qu'on appelle un peu pompeusement l'âge adulte, on fait tout en même temps, c'est-à-dire on fait pas que la vie professionnelle ou que la vie sentimentale, c'est pas vrai, une vie c'est fait de tout ça, donc tout ça c'est un peu confus et on fait du mieux qu'on peut. Et le couple qu'elle forme avec ce garçon, c'était un peu le double inversé du couple des deux vieux écrivains, mais où les plus jeunes sont pas ceux qu'on croit. C'est-à-dire, c'est les deux vieux qui, au fond, ont une liberté folle, où vraiment aucun d'entre eux n'a entravé l'autre. Où y a... Et puis elle est de cette génération qui est la mienne, qui est la génération d'après les 68 heures, quoi. D'après, voilà, nos parents, c'est ceux qui sont nés après-guerre. Et donc, on a quand même l'idée que c'est bien d'avoir des relations plutôt ouvertes, que le mariage, c'est pas nécessairement... Voilà, que ça peut être enfermant. Enfin, on lit les liaisons dangereuses de Chauderlot, de Laclos, alors on trouve ça super, tous ces libertins, Madame de Merteuil. En plus, moi, il y avait le film qui était sorti quand j'étais ado, donc vous y en étiez tous, on n'en pouvait plus. Et donc, elle essaye, elle, d'être libre. Et c'est dit dans le livre, à un moment, c'est dit, elle voulait être libre, mais elle ne savait pas comment faire. Mmh. Et donc, elle tente des trucs, et elle a ce garçon qui est très bien, d'ailleurs, parce qu'il lui vend pas la lune, il lui ment pas. Il se fait pas passer pour ce qu'il n'est pas, donc elle tente un peu la relation libre, et puis bah, évidemment dans la relation libre c'est surtout lui qui est libre, donc à un moment elle finit par se rendre compte qu'être normale, c'est pas si mal, et parce que c'est ce qui lui convient à elle. Alors qu'elle est entourée de gens qui sont tous très originaux, très transgressifs, très dans l'expression de leur liberté, et elle, elle est en train de bricoler ses petits bouts de trucs pour essayer de trouver la sienne de liberté. Donc c'est vrai que mon personnage principal, qui est mon double, hein, il a un petit côté personnage comique, oui, chez lui. Sauf que il échappera pas aux lectrices, aux lecteurs, c'est quand même elle qui écrit à la fin. Donc il y a un moment où quand même le canard a fini par faire autre chose que se poser des questions.
Oui, clairement.
Le canard passe à l'attaque.
Clairement. Il y a aussi tout le volet de comment l'art se fait, notamment au travers de l'expo et au travers de l'écriture, de comment les gens ils interagissent sur l'art. Il y a une scène très cocasse, et là on est dans aussi le vif du métier, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de monter une expo, elle va ouvrir, il y a des gens qui sont encore là en train de tergiverser ou bien de tout simplement sillonner, on ne voyons pas, on ne sentons pas le sérieux de ce qui attend en fait. Le personnage principal finit quand même par balayer un petit peu une personne d'autorité qui donne de l'argent pour que l'expo existe. C'est cocasse, ça vous est arrivé ou quoi?
Oui, ça c'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que c'est tous ces gens-là avaient beaucoup d'humour parce que j'ai foutu dehors le président du conseil régional qui était le financeur de l'expo parce qu'on m'avait pas prévenu, parce que j'étais jeune, parce que j'étais pas prudente et parce que je prenais mon rôle très au sérieux, comme on le fait quand on fait des choses pour la première fois. Et alors donc j'étais une sorte de gardienne du temple de l'expo, il était hors de question qu'on vienne m'embêter, etc. Donc c'est tout à fait vrai, je l'ai mis dehors, mais je suis contente que vous souligniez la matérialité du travail, c'était très important pour moi. Parce qu'il y a toujours plusieurs histoires dans un seul livre, je crois. Et il y a une des histoires que ce livre raconte aussi, c'est l'initiation à la littérature et à l'art en train de se faire, et pas l'idée de la littérature ou de l'art. Pas la chose abstraite. C'est du concret, en fait, tout ça. C'est des heures de vie, c'est des échecs, c'est des tentatives, c'est des papiers, c'est des tableaux, c'est de l'argent, c'est des commandes, c'est des rapports de pouvoir. Ça m'intéressait de plonger, que le lecteur, la lectrice plonge au cœur de ça. C'est-à-dire un peu comme quand... Enfin, c'est immodeste, pardon, mais quand Balzac vous décrit le milieu du journalisme, voilà, vous êtes au cœur de la machine, quoi. Ben, moi, j'avais envie qu'on soit au cœur de la machine aussi, mais toujours avec ce regard un peu décalé, un peu ailleurs de cette jeune personne qui est là, qui est très jeune, qui est inexpérimentée, qui regarde tout ça comme si elle était un peu une extraterrestre, quand même, au départ, en tout cas.
C'est un très joli hommage au métier. Vous rentrez aussi dans le cœur du réacteur, vous soulevez les tâches quotidiennes des personnes et combien elles prennent de la valeur lorsqu'il faut faire quelque chose pour sortir, pour partager avec les autres. Moi, je vous dis bravo, en fait.
Ah bah, je suis très, très contente que vous me disiez bravo là-dessus. Parce que c'était très important pour moi. Il y a quelque chose, si vous voulez, je crois, chez les écrivains, qui est quand même très proche de l'artisanat. Hélas, je ne sais rien faire de mes mains, mais j'ai la plus grande admiration pour ceux qui savent. Et je crois qu'on est quand même dans le même type de rapport à notre art. C'est long, c'est dur. L'écriture, c'est solitaire. Les expos, non. Et les métiers de l'archivage autour de l'histoire de la littérature non plus ne sont pas solitaires. C'est des choses que vous ne pouvez pas les faire si vous ne les faites pas en équipe. C'est pas possible. Une seule personne ne peut pas. Donc je voulais montrer cette choralité, cette collégialité dans le travail. C'était aussi un des visages de ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est comment il y a des solidarités qui se créent, comment on bricole ensemble et comment on finit par trouver des solutions à des choses qui nous paraissaient un peu lointaines, ou parce qu'on est des êtres humains qui échangent et qui vivent, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder toujours, que tout ça, c'est d'abord de la vie. Voilà.
Mais dans le réel, vous avez beaucoup de chance de toucher vraiment aux deux.
Ah oui, mais moi, j'ai une chance pas possible, j'ai eu un bol pas possible. C'est-à-dire, c'est faut rester très modeste avec tout ça. Bien sûr qu'on travaille, bien sûr qu'on... Moi, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, c'est un peu ridicule de dire ça, j'ai beaucoup travaillé, mais c'est la vérité. Je veux dire, j'étais pas là en train de me croiser les doigts. Mais tout ça, ça m'est tombé sur la tête. Moi, j'ai pas... C'est arrivé par hasard. Et donc c'est une chance extraordinaire parce que ça vous, quand vous êtes jeune comme ça, que votre première expérience c'est cette grande chose-là, alors c'est très déstabilisant, hein, évidemment, parce que vous n'avez pas les outils pour le penser, en fait, tout simplement du fait de votre inexpérience. Mais quand même, ça ouvre tout, ça ouvre toutes les fenêtres à l'intérieur du crâne, quoi. Et ça, c'est juste du bol. Et c'est un vrai sujet littéraire, le hasard. C'est que... Voilà.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Oui, c'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B et les podcasts de cette émission, vous pouvez les trouver sur canalb.fr. Sachez que Le Nombril de Vénus, c'est tous les samedis à 11h et la rediffusion se fait le dimanche à 16h30. Je vous souhaite bon week-end. Allez, bisous, bye!